J'avoue que ce fut vraiment, je veux dire, un grand honneur et surtout une profonde joie pour moi d'avoir pu côtoyer Mgr Brincard quasiment pendant tout son ministère, parce que je suis arrivé en Haute-Loire en 87 et je l'ai connu jusqu'en 2014. Alors, comment on commence ? D'abord, je l'ai connu, alors avant, je dois dire, grâce à un ménage ami commun, dès 74. Vous voyez, ça remonte à 76, pardon. Et deux ans après, il a marié mon frère et ma belle-sœur, donc je l'ai connu un peu plus. Et ensuite, je suis venu ici en 87, j'ai connu deux périodes avec lui. D'abord, comme architecte en chef, j'y étais de 87 à 92. Et ensuite, j'ai été nommé dans le Vaucluse. Et donc, je suis revenu en 94 comme inspecteur général jusqu'en 2013, où j'étais, c'était la fin de ma mission d'inspecteur en Auvergne. Et là, au début, quand on se voyait, je dirais, j'étais marqué par plein de choses. Et il me disait au départ, mais qu'est-ce que veut dire le patrimoine ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi ça consiste ? Et alors, je me souviens avoir partagé avec lui, puis je profite de cette anecdote parce qu'il s'agit d'une expérience que j'ai eue à Lyon, donc c'est plutôt pour le cardinal Barbarin et pour vous, Monseigneur, une expérience sur la primatiale Saint-Jean qui m'a toujours marqué. À cette époque-là, alors je vous donne les dates, ça remonte loin, ça remonte en 82. Et en 82, on commençait la façade de la primatiale Saint-Jean. Ce chantier-là a lieu tous les deux siècles. Donc je me disais, ça serait intéressant de le montrer à des jeunes, parce qu'ils en parleront un jour à leurs enfants ou petits-enfants. Donc un jour, dans un conseil municipal d'une commune d'environ de Lyon, je leur dis, ben voilà, je suis prêt à emmener des enfants de votre commune ou des parents qui veulent. Pas de réponse. Mais le lendemain, j'ai un téléphone de deux conseillers municipaux et qui me disent, ben voilà, on vous a écouté hier. Nous, c'est un peu particulier parce qu'on est éducateur dans une prison. Il dit, ah bon ? Et en 81, le ministre de la Justice s'appelait M. Badinter. Et M. Badinter avait lancé une série d'expériences, ce qu'il appelait des réinsertions, des expériences de réinsertion, en profitant de ce qu'on veut et en les sortant de maisons d'arrêt pendant une semaine, et puis avoir des expériences. Et ils me disent, eh ben voilà, est-ce qu'on peut avoir une expérience comme ça de chantier avec eux ? Je lui dis, ben je m'attendais pas à ce type de public, mais néanmoins, pourquoi pas ? Alors, il y a une chose qui compte, c'est justement dans les relations humaines, c'est quand le courant passe et quand vous tombez sur des gens qui sont très bien, très stables, et puis qui donnent envie d'aider, surtout. Alors, ils me disent, je vous résume l'histoire, ils me disent, mais il y a des conditions. Les jeunes qu'on vient... Ça peut. Alors, ils me disent d'abord, il faut que vous parliez que de choses basiques. Pourquoi ? Parce que coefficient intellectuel très bas, donc il faut que des choses de base et pas des choses compliquées. Alors, je lui dis, on peut adapter le discours, c'est pas le plus passionnant, mais on peut adapter le discours. Deuxièmement, ça peut pas durer plus de trois quarts d'heure. J'ai dit, faire une visite de chantier en trois quarts d'heure, surtout d'une façade, ben c'est pas, vous ne me prendrez pas trop de temps et c'est court. Et puis troisièmement, ce qui était terrible, il me dit, il y a un tel pourcentage de suicidaires, on ne peut pas monter sur l'échafaudage. Donc, c'était un peu compliqué comme départ. Et je dis à Monseigneur, Monseigneur Brincard, je lui dis, ben voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Cloué au sol pendant trois quarts d'heure avec des choses basiques. Et puis ce genre de choses, ça vous arrive, je dirais plutôt en pleine nuit, en rêvant, qui sont ces jeunes qui viennent ? En fait, ce sont des jeunes qui connaissent que des choses tristes, que des choses sales, que des choses médiocres. Et en fait, je n'ai pas envie de suivre les éducateurs, j'ai envie de montrer exactement l'opposé. Tout ce qui est le plus beau, tout ce qui est le plus exceptionnel, tout ce qui est le plus élitiste. Alors je vais voir, si vous vous en souvenez à cette époque-là, je vais voir le recteur qui s'appelait le père Nanta. Père Nantin, qui était très, très gentil, et je lui dis, père, est-ce qu'on peut sortir ? Alors, je vais prendre un verre pour montrer le calice en or, superbe que vous avez dans votre coffre, avec des pierres précieuses et des filigrammes et tout et autres. Alors, il me dit, Didier, vous êtes complètement fou. Alors, j'ai dit, oui, mais on vient de renforcer la porte de la sacristie, de rajouter des barreaux aux fenêtres, on vous fermera à double tour, puis vous savez, il y aura beaucoup de gens autour, donc on craint rien. Et puis j'ai dit, est-ce qu'on pourrait sortir la chasuble du cardinal Fesch, la plus belle des chasubles qui soit, qui est faite en velours de soie rasé de Gênes, rapportée par le cardinal Fesch et qui était le velours du sacre de Napoléon. Et ensuite, le cardinal Fesch l'a fait broder par des visitandines à Lyon qui brodaient à ravir, et ça donne un set de vêtements sacerdotaux absolument exceptionnel. Comme il était très bon, il accepte. Et j'ai dit, ben, vous restez là dans la sacristie, vous verrez. Et donc arrivent les prisonniers. Ils étaient 15. Il y avait les deux éducateurs et moi, ça faisait 5 chacun, mais il y avait plein de monde autour. Je n'ai jamais demandé qui était là, entre les policiers en civil et tout ce qu'il fallait. J'avais prévenu l'entreprise en disant, on commence à 14h, mais à 15h, vous serez libérés, parce que ça peut pas, enfin, ouais, ils ne sont plus là. Et j'ai commencé, évidemment, cloué au sol par toutes les chapelles latérales. Mais dans les chapelles latérales, j'avais décidé, si vous voulez, de ne parler pas une seule date, pas un seul nom de style, mais qui est derrière chaque chose, qui est derrière chaque pierre, derrière chaque sculpture, et avec 3 éléments, leur succès, leur faiblesse et leur repentir. Parce que contrairement à ce qu'on croit, dans les édifices religieux, il y a beaucoup de repentir. On reprend les choses et ainsi de suite, et on ne fait que s'améliorer. Alors on démarre, et puis je dois dire qu'ils étaient au début assez nerveux, et assez vite, ils commencent à poser des questions, mais qui a fait ça? Et ainsi de suite. Et je finissais par dire, je vous simplifie les choses, mais je me suis dit, montre-moi ta main. Tous les dons sont au bout des doigts. Si tu as la volonté dans l'esprit et la générosité dans le cœur de suivre un maître, parce que tout l'art, pas seulement français, c'est toujours traduit de maître à apprenti. Donc il faut accepter d'être un apprenti d'abord. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Puis commencer à me poser des questions qui étaient intéressantes. Je vous simplifie, j'arrive dans la sacristie, je verrai toujours, le pauvre Père Lantard prend un Parkinson instantané, il était complètement paniqué. Alors je prends le calice et je leur dis, ben, vous voyez, il y en a un qui a fait le pied ici avec les filigrammes, l'autre a fait le fût, il y avait un nœud en ivoire qui était très beau, et puis un quatrième a fait la coupe, parce qu'on ne fait rien tout seul. On ne fait rien tout seul, et là ils l'ont fait quoi? J'ai dit, ben, écoutez, c'est pour célébrer l'Eucharistie, pour la gloire de Dieu, je ne sais pas s'ils ont tout compris, mais peu importe. Et donc, c'était ça. Et ils ont tous travaillé avec le même but et pour une seule œuvre. Et alors, je leur montre les filigrammes qui sont là sur le pied. Et puis, ils s'étaient trompés. Il y a le truc, on voit, il reprend le filigramme, il repart dans l'autre sens pour sertir les pierres précieuses. Enfin, voilà. Et puis, à un moment donné, je dis à un prisonnier, ben, prends-le. J'ose dire, pardon, mes pères, mais j'ai rarement vu un chanoine prendre un calice avec autant de respect. Il prend le calice. Il le regarde dans tous les sens. Il le retourne. Alors, je ne peux pas retourner parce qu'il y a de l'eau dedans. Mais il le retourne et puis il s'aperçoit. Personne ne m'a dit combien ça coûte. Personne ne m'a dit l'Église est trop riche. Et alors, c'était très impressionné parce qu'ils ont tous regardé. Là, il y avait le silence. Et alors, surtout en leur disant comment c'était fait, c'est-à-dire comment on travaille l'or, comment on travaille les filigrammes, comment on travaille les pierres. Et puis, on prend tout ce qu'il y a de plus beau et eux ont donné le meilleur d'eux-mêmes, les 4 ou 5 qui ont travaillé là. Et je dis, ben, vous voyez, vous attendez les récompenses tout de suite. Lui, ben, le pauvre fabricant du calice, il aura attendu, les artisans, il aura attendu 4 siècles pour avoir cette reconnaissance de la qualité. Et c'était impressionnant parce qu'il ne disait rien. Et tout à coup, il y en a un qui dit « c'est beau ». Je pense que c'est la première fois de sa vie qu'il disait ce mot-là. Et alors, on a continué. Je monte la chasuble. La chasuble était avec... Vous savez, c'est des broderies qui sont en relief, parce qu'elles sont brodées sur une corde. Et là, je leur ai dit, ben oui, c'est le velours du sac de Napoléon. Et je leur ai dit, on vous dit toujours ne pas toucher. Non, caresser timidement. Mais avec une haute couturière de chez Chanel, ils ont passé leurs doigts, leurs petits doigts sur le velours pour sentir ce que ressent le velours de soie rasé. Et puis... La broderie est en relief. Je lui ai dit, vous savez, vous connaissez tous l'expression « usée jusqu'à la corde ». Ben, ça vient de là. C'est quand les broderies sont usées et qu'on commence à voir la corde. Et puis, il commençait à poser des questions intéressantes. Alors là, je pousse le coude de l'éducateur et je lui ai dit, écoutez, au premier étage, il y a une très belle sculpture. S'il tombe, il se casse une jambe, ça ne me semble pas grave. Bon. Alors, mais là, je leur dis, vous avez des gens qui sont sur le chantier, il faut prendre soin d'eux. Donc maintenant, vous vous débrouillez. Si vous avez le vertige, vous vous couchez, on vous récupère en descendant. Et donc, on monte, et puis on arrive. Alors, pour ceux qui connaissent, c'était un grand portail gothique, et il y a le portail central, il y a des voussures. Et les voussures, au début, vous avez les anges qui portent les chandeliers, et après, l'encensoir, après, des anges priants, et les derniers, c'est les anges musiciens. Malheureusement, ils ont perdu les têtes, mais heureusement, les révolutionnaires étaient de mauvais tireurs. Donc, en bas, ils ont eu les têtes, mais en haut, elles sont restées. Donc, vous partez de la gauche, vous montez au sixième, et c'est un ange qui joue de la flûte, et qui a encore sa tête, et qui est admirable. Alors, j'avais fait venir le... Et là, en plus, il est souriant. Alors, j'ai dit, vous voyez, tous les anges sont souriants. Parce que le sculpteur arrive de Reims, et en fait, il a copié l'ange souriant de Reims, et puis il vous rapporte ce qu'il a vu de plus beau ailleurs, et il vous le met. Et j'avais demandé à un tailleur de pierre de venir et de montrer avec quoi c'était fait. Et quand ils ont vu simplement, je dirais, un maillet et un ciseau, ils ont été frappés par la modestie, je dirais, l'humilité des outils, l'excellence du résultat, parce qu'ils voyaient que même toutes les plumes étaient taillées. Et qu'est-ce qui est entre les deux? C'est le savoir-faire humain. Et c'est ça qui est beau, c'est grâce au savoir-faire humain, ce n'était pas des outils compliqués. Et voilà ce qu'on arrivait à réaliser. Et puis en plus, je leur dis, vous voyez, avec les archéologues et les historiens, on a déterminé la note qui jouait. Et puis on a déterminé toutes les notes. Et toutes les notes, c'est le chant d'entrée de la liturgie lyonnaise pour vous accueillir. Rien n'est gratuit, tout a un message. Et c'est là où, si vous voulez, on oublie un peu dans les monuments que l'on voit, et principalement les églises, on oublie le message qui est derrière. Et j'ai dit simplement pour vous accueillir. Et alors, si vous regardez même, ils utilisaient la géométrie, il y a quatre voussures. Les anges extérieurs, ils vous prennent au milieu de la place. Et puis, les anges intérieurs, ils vous regardent pas dessus la tête. Ils vous suivent jusqu'à l'entrée de la porte, ce qui est assez extraordinaire. Là, ils commençaient à poser des questions intéressantes. Je repousse le coude de l'éducateur et je lui dis, il y a une sculpture très compliquée. Au deuxième étage, ils se casseront deux jambes. Ils accordent, on monte. Alors là, je dis, c'est nettement la providence qui nous a aidés. C'est qu'on arrive devant un tailleur de pierre. La moulure était très compliquée. Il avait raté les deux premières pierres. Et c'était la troisième pierre qu'il faisait. Il venait de travailler 12 heures de suite et il était heureux. Alors ça les a beaucoup marqués. 4 heures après, on était encore sur l'échafaudage. Je les ai montés jusqu'à... Je ne sais pas si vous voyez la cathédrale de Lyon, il y a un gable en haut et Dieu le Père. Accrochez-vous à Dieu le Père, je ne suis pas sûr que vous savez qui c'était, mais peu importe. Et donc après, il était 18 heures, il a fallu les forcer à descendre parce que le chantier fermait. Et là, je dois vous dire que les deux éducateurs et moi-même, on était très émus parce qu'ils ont supplié le chef de chantier de les embaucher dès le lendemain. On ne pouvait pas parce qu'ils étaient évidemment encore en prison ou dans les maisons d'arrêt. Mais qu'est-ce que ça m'a laissé, et j'en parlais justement, échangé avec Mgr Brincard, c'est peut-être deux choses qui sont un peu curieuses. C'est d'une part que même si on n'a aucune connaissance, alors quand vous en parlez en plus aux plus brillants des élèves de l'école des Chartes, vous devinez que c'est impressionnant et qu'il y avait une culture absolument fabuleuse. Et je lui ai dit, mais eux n'avaient rien, mais la qualité est toujours attractive. La médiocrité n'a jamais intéressé personne. Donc, ce n'est pas la peine ni de l'enseigner, ni de la montrer. Tandis que la qualité... Et puis, une chose qui est peut-être un peu lyrique, mais en fait, nos monuments, c'est quoi? Ce sont des blessés de l'histoire. Et je pense que les blessés de l'histoire ont une sorte de mission de s'occuper des blessés de la vie et d'aider, et même, je dirais, inconsciemment, entre eux, blessés, ils se retrouvent. Et voilà ce dont on parlait avec Mgr Brincard au milieu. Quelle est la signification du patrimoine? Et vous devinez qu'avec le... En fait, on se dit qu'il n'y a pas qu'une seule dimension dans le patrimoine. Il n'y a pas trois dimensions, il y en a quatre. C'est le patrimoine humain. Et évidemment, Mgr Brincard en rajoute une cinquième, c'est l'apostolat. Et le rayonnement de ces monuments et de savoir comment est-ce qu'on peut le traduire, le transmettre, comme vous avez dit, les expériences vis-à-vis des jeunes, comment on peut le transmettre. Voilà comment on a commencé. Alors, quand vous arrivez au puits, on partait du principe que moins on a d'argent, plus il faut faire des projets généraux. Et on est parti sur l'idée d'un schéma directeur de toute la cité épiscopale. Voilà ce que c'était au départ. C'est-à-dire que ça comprenait la cathédrale, le cloître, le bâtiment des clergeons, le bâtiment des Mâchicoulis, la chapelle des Pénitents, il y avait même à côté l'hôtel Dieu, mais qui appartenait à l'agglo, et puis l'hôpital général, qui a été repris par le département. Et donc, il y avait une circonstance incroyable où la plupart étaient vides, n'avaient plus de fonction. Et l'idée, c'est comment remettons la vie dans un monument. Et il faut savoir qu'un monument, vous ne pouvez pas, c'est le monument qui commande, vous ne pouvez pas plaquer une fonction. Plaquer une fonction, c'est comme une mauvaise prothèse, le corps la rejettera toujours. Et il y a beaucoup de choses qui ont été comme ça restaurées avec de mauvaises fonctions. Ça ne dure jamais, ça dure que le temps de l'inauguration. Donc c'est ça qui est important de voir, qu'il faut d'abord bien connaître le monument, savoir qu'est-ce qu'on peut en tirer et tirer le maximum. Et donc on est parti sur l'idée de lancer, et ça c'est à l'initiative de Mgr Brincard, qu'on a décidé de faire ce schéma directeur sur l'ensemble de tous les bâtiments, ce qui est évidemment une prouesse assez incroyable pour y arriver. Mais ça a mis des années, on a commencé dès 88, 89, on a commencé tout de suite, mais on a bénéficié, je dirais, de circonstances assez extraordinaires, c'est le contexte et l'environnement. Et ça, ça joue, parce que, pourquoi ? Parce qu'à la préfecture, il y avait un préfet remarquable, Pierre Breuil, pour vous dire qu'il était passionné de patrimoine. Son épouse venait avec nous dans les chantiers, les tournées de chantier. Et le soir, il me disait, ben, avant de rentrer à Lyon, venez me parler, ça me changera des quotas laitiers. Ensuite, on avait le maire qui s'appelait M. James, et après d'ailleurs M. Vauquier, les deux. Ensuite, il y avait M. Barreau, qui était président du département, qui a fini par prendre, vous voyez, qu'il a repris l'hôpital général pour en faire l'hôtel du département. Et puis on avait un architecte du bâtiment de France remarquable qui s'appelait Jean-Pierre Gonel, et avec qui on faisait toutes les tournées de chantier. Et à Clermont, il y avait un conservateur régional des monuments historiques qui s'appelait M. Alley au départ, et ensuite était M. Allemand, qui était de véritables promoteurs de patrimoine. Pour vous dire, au début de la Haute-Loire, quand j'ai eu la Haute-Loire en 87, il n'y avait que 2 millions de francs de travaux. Et quand je suis parti, il y avait 18 millions de francs. C'est-à-dire qu'il suivait tous les projets, il l'entraînait. Ça, c'était de vrais promoteurs du patrimoine. Je dois dire qu'aujourd'hui, il y a un peu une tendance à trouver plutôt des congélateurs de patrimoine. Donc ça aussi, c'est important de savoir comment on évolue là-dedans et comment redonner la vie à tout ce patrimoine. Donc voilà dans quelles circonstances on a commencé, qui était évidemment particulière, extrêmement intéressante, et surtout, comme vous l'avez très bien dit, mais avec Mgr Brincard, on parlait de tout. Et puis il échangeait sur tout. Et là aussi, très souvent, avant de rentrer, je passais par l'évêché, on dînait ensemble, pour échanger sur le patrimoine, dans quel sens va-t-on, et qu'est-ce qu'on fait, et pourquoi. Vous savez, la formation d'officier de marine de Mgr Brincard, je dirais, faisait qu'il regardait d'abord l'horizon. Et il voyait toujours l'horizon. Et à l'horizon, il y avait toujours trois amers. La mer principale, je dirais, c'était la foi dans le Christ. Peut-être une deuxième qui était l'intercession et la protection de la Vierge Marie. Et puis le troisième, c'était la confiance totale dans la Providence. Avec ces trois amers, c'était vraiment de savoir qu'est-ce qu'on fait de tous ces bâtiments. Donc, on a commencé par les analyser. Alors, moi, j'ai participé à l'analyse, mais pas les travaux. Parce qu'après, je suis parti. Et c'est mes trois successeurs, qui sont Stéphane Toin, Stéphane Manchulescu et Michel Trubert, qui ont assuré toute la restauration pratique et matérielle. Mais ce qui était passionnant, c'est le départ. De quoi, comment fait-on et comment on arrive. Alors, la cathédrale, évidemment, le bâtiment principal, c'est la cathédrale. Vous rentriez dans la cathédrale à cette époque-là, on ne voyait rien. Il y avait peut-être des ampoules de 25 watts, mais on ne voyait rien du tout. Tout était noir, et je dirais qu'il y avait une parfaite harmonie dans la saleté. Tout était tellement sale et gris qu'on ne reconnaissait même pas les matériaux, si c'était de la pierre, du bois, de la peinture, une sculpture, enfin, tout était gris. Et on ne voyait strictement rien. Mais c'était harmonieux. Et Mgr Brincard m'avait dit en riant, parce qu'il avait un sens de l'humour extraordinaire, eh bien, il faut faire la même chose, mais en propre. C'est-à-dire de garder l'harmonie et en propre. J'aimais toujours, parce qu'il y avait à la fois des choses extrêmement sérieuses, et puis il savait toujours trouver, l'accent qui faisait rire et qui, je dirais, de vous décontracter immédiatement. Et donc là, voilà comment on a commencé. Vous voyez que c'était pas très scientifique, mais c'était une vraie volonté de vision. Il avait vraiment, ce que j'admirais toujours, une vision générale permanente. Et il avait cet art qu'ont les grands, personnes cultivées, savoir passer du général au plus petit détail. Et il était intéressé par les deux. Et il faisait toujours le va-et-vient. Il n'y avait aucun mépris du petit détail ni de la vision générale. Et c'est là où, dans une chose comme ça, je peux vous dire, c'est extrêmement précieux pour savoir qu'est-ce qu'on fait des choses. Alors, on a commencé donc par la cathédrale qui était, comme je vous dis, on ne voyait rien, mais et ça se prend comment, on nettoie comment, on fait des essais dans tous les sens et ainsi de suite. Et je me souviens, pour vous raconter une anecdote, d'un des premiers, et son sens de l'humour, je ne sais pas, il y avait une cérémonie, et puis là-dessus, évidemment, il n'y avait aucune règle de sécurité. Les portes étaient dans le mauvais sens, rien. Si bien que la commission des pompiers nous demande tout de suite d'installer des extincteurs partout. Pour uniquement la cérémonie. Et on arrive, et les pompiers avaient déjà mis la place, et je verrai toujours, entendrai toujours son éclat de rire, qui dit, alors ça, c'est le comble. Les pompiers avaient trouvé comme meilleur espace de mettre un extincteur au pied de la statue de Sainte-Jeanne d'Arc. Alors, ça, c'était le comble de la norme. Mais c'était trop tard. Donc voilà comment on commençait. Même si c'était sérieux, mais il y avait toujours quelque chose de différent. Et alors, petit à petit, eh bien, vous savez, les restaurations, comme on dit en français, top to down, c'est-à-dire on commence toujours par le toit, et puis on descend jusqu'au rez-de-chaussée et à l'intérieur. Donc on a commencé évidemment par les toitures et autres. Et ils permettaient, on avait à ce moment-là des stages de bénévoles à Pébrac, dans toutes les églises. Il faut vous dire, vous êtes habitué parce que vous êtes en Haute-Loire, mais la Haute-Loire est vraiment, si ce n'est le département, le plus exceptionnel pour la richesse d'avoir gardé tous ces décors. Vous savez, la Révolution est arrivée 4 ans après. Elle était un peu essoufflée. Donc, en fait, on a beaucoup moins démoli. Et vous avez, c'est la Haute-Loire qui présente le plus grand nombre d'œuvres religieuses intérieures. C'est-à-dire en statues, en tableaux, même des antépendiums d'hôtels, tout est là encore. Ce qui est évidemment assez extraordinaire. Donc c'est un livre ouvert de l'histoire de France de l'architecture religieuse, qui est évidemment très intéressant. Et donc, voilà ce qu'il fallait faire au départ. Mais il y avait dans toutes les églises. J'ai jamais fait autant d'églises. Les noms, mais Pébrac, Longjac, Saint-Paulien, La Chaise-Dieu, tout le monastier sur Gazeille, toutes les églises de dimensions différentes, mais toutes exceptionnelles, avec en plus des peintures, des décors et autres. Et ça vous apprend à voir qu'en fait, la peinture, ils étaient très pratiques. La pierre était noire. Ils ne voyaient rien du tout, donc il fallait l'éclairer et ils la peignaient. Il l'a peigné dans toutes les couleurs et c'est extrêmement coloré. Alors en plus, avec la signification des pierres qui est assez belle, le noir c'est toujours le matériel et le péché, le blanc c'est la purification et le rouge la glorification. Ça c'était les couleurs de base pour faire comprendre les choses. Mais c'était la joie qu'il fallait redonner dans ces édifices, redonner et surtout la qualité des savoir-faire des artisans anciens qui étaient exceptionnels. C'était vraiment vous savez, les monuments historiques, c'est une célébration du génie humain. Et pour la cathédrale, c'est particulièrement particulier parce que vous êtes à un site, on n'a pas de site plus compliqué. Et bien, votre cathédrale, vous avez 2 travées sur le rocher et 4 dans le vide. C'est un plongeoir. C'est un plongeoir. Comment ils ont osé mettre 4 travées totalement superposées dans les escaliers que l'on voit? Et vous voyez qu'elle date du XIIe ou XIIIe siècle, il n'y a pas une fissure. Et ça, c'est le génie des bâtisseurs, il n'y a pas une fissure. Et on en parlait beaucoup avec Mgr Brinquin, j'ai dit, vous vous rendez compte, moi, avec ma petite garantie décennale, elle est plus que mesquine. Là, vous avez une garantie de plusieurs siècles. Et bien, c'était ça, c'était cette garantie, ce fond qui était solide, et de savoir sur quelle base on part pour ça. Et à l'intérieur... Vous savez, les tailleurs de pierre, on les voit, on voit ce qu'ils font. Mais il y a des gens auxquels on ne pense pas, et on en parlait beaucoup avec lui parce qu'il s'intéressait toujours. Il disait, il faut que chacun donne le meilleur de lui-même, mais dans ses possibilités, pas chercher forcément à faire des choses au-delà. Et j'ai dit, il y a les maçons. Et les maçons, souvent, ils sont un peu méprisés. Un jeune qui n'a pas de spécialité, on lui dit, tu fais maçon. Et je dis aux maçons, non, vous êtes en fait l'âme des monuments, ce qui ne se voit pas, mais ce qui fait tenir. Si les maçons de la cathédrale, ou d'ailleurs même de toute la cité, n'avaient pas bien travaillé, on n'aurait plus de cité aujourd'hui. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils savaient ces métiers-là, le patrimoine, c'est donner du travail digne et reconnaissable à chacun. Et donc, c'est la vocation humaine du patrimoine. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut redonner la vie à travers les savoir-faire et lui rajouter la beauté. Voilà. Et donc, voilà comment on a commencé. Alors après, comme exemple, je peux vous dire, vous avez parlé du Camino. Alors le Camino, évidemment, il s'est intéressé beaucoup. Mais je me souviens, vous avez parlé aussi des jeunes, d'une anecdote, je vous le cite. Un jour, à ce moment-là, je commençais à travailler dans le Vaucluse et on s'occupait à Orange du théâtre antique. Je pars un matin avec 4 collaborateurs dans la voiture. On passe le péage d'Orange. Il pleuvait, mais des cordes. Absolument des cordes. Il pleuvait comme dans le midi, soit il pleut pas, soit c'est des douches. Donc c'était un jour de douche. Et il y avait un jeune qui était, on voyait dans l'autre sens, un jeune gaillard avec un sac à dos qui était complètement trempé. Depuis quand il était là, il avait mis un petit panneau Lyon. Et mes collaborateurs disent, bon, écoutez, après la réunion, s'il est encore là, on pourrait le prendre. Bon. La réunion se passe très bien, on reste 2 heures, on revient, il était encore là. Sous des trompes d'eau, donc il était trompé, on s'arrête, et puis on lui dit, ben, montez, c'est bien qu'on était 5 dans les voitures, ça allait bien, mais lui était vraiment trompé, il gelait, il grelottait. Mais c'était un grand gaillard extrêmement sportif qui ne parlait pas un mot de français. Et d'où il arrivait? De Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'un jeune de Nouvelle-Zélande fait au péage d'Orange? Donc on se demandait, et vous allez à Lyon? Ah ben oui, je vais à Lyon, mais je vais dans la banlieue de Lyon. Ah bon? J'ai dit, vous allez où? Alors avec son accent, je ne comprends rien du tout, il me dit, Liwell in Villay. Et après ça, il m'explique le premier nom de la ville, je n'arrive pas à le prononcer, donc je l'ai traduit en anglais. Comme « well » veut dire « puits », mais c'était le puits en velay. Alors, je lui dis, « Ah bon, vous allez au puits en velay, mais ce n'est pas la banlieue de Lyon. » Je veux dire, pas la banlieue, il faut quand même 1h30 pour y aller après. Et puis, alors, ça se trouve comme ça, il était très sympathique, et je dis, « Mais comment vous connaissez le puits en velay ?» Ah ben, en Nouvelle-Zélande, il regardait tous les sites de sport, parce qu'il était très, très sportif, il faisait de la haute montagne, des tas de choses. Il a dit, j'ai vu qu'il y avait un chemin qui était intéressant. Et puis, il me dit tout de suite, je ne suis pas du tout catholique, hein, j'y vais pour le sport, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. S'il fut trop long, vous me dites... Ah non, bon. Et là, je lui dis, non, je veux faire ça pour le sport. Et puis, arrivé à Lyon, j'ai dit, mais vous allez où? Alors, il n'avait évidemment pas d'endroit, donc je l'héberge. Et je lui ai dit, vous avez vraiment la providence avec vous. Demain, je vais au Puy-en-Velay. Alors, j'allais en Haute-Loire le lendemain, pas tout à fait au Puy, mais je passais par le Puy. Alors, je lui ai dit, alors ça, vous avez une bonne étoile, comme on dit vulgairement. Et évidemment, j'ai appelé le soir même Monseigneur Brincard. Et je lui ai dit, écoutez, demain matin, je vous amène un Néo-Zélandais qui ne parle pas un mot de français. Mais comme vous l'avez dit, Monseigneur Brincard était totalement boulingue. Et puis, voilà, je vous l'amène parce qu'il veut partir et prendre le chemin de Saint-Jacques. Très bien, on s'entend. J'arrive sur la place du Fort, je le laisse. Et puis, Monseigneur Brincard le prend en main. Et puis, moi, je vais faire la tournée. Et puis après, je ne savais pas. Je vais laisser mon portable, c'est tout. Et puis, c'est le soir même, non, je pense, c'est le lendemain. Juste après, il commençait juste le chemin. Et puis, il me laisse un message vocal. Et avec un accent terrible de Nouvelle-Zélande, me dit « What a man !» Ça veut dire « Quel homme !» Quel homme. Alors, évidemment, Monseigneur Brincard l'avait totalement bouleversé. Mais je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Il ne m'a rien dit du tout, bien sûr. Et il est parti faire le chemin. Donc, il est parti faire le chemin. Et comme il était très sportif, il l'a fait en un mois. Et puis, il est revenu à l'aller-retour. Et il m'a mis simplement un message au retour, qui était évidemment, il l'a écrit « J'aimerais être baptisé ». Je, Je dirais, je ne connais pas la suite, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais voilà. Évidemment, Mgr Brincard a dit, c'est ça la Providence. Et bien, lui n'y était pour rien, bien sûr. Donc, mais voilà comment c'était les choses. Alors, je l'ai vu aussi avec des jeunes, parce que j'avais des stages de bénévoles, et des jeunes qui étaient, j'allais dire, en difficulté et autres, et j'ai toujours admiré justement la façon dont ils les traitaient, et la façon de toujours les tirer vers le haut, en les respectant. Un peu comme le principe d'un prisonnier, c'est de lui montrer que voilà, le beau est accessible. Mais ce n'est pas le beau physique, c'est le beau à la fois du cœur, de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire de trouver l'harmonie. Et ça, vous savez, il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'en étudiant les hôtels-Dieu, vous en avez un ici. Tous les hôtels-Dieu du XVIIe et XVIIIe avaient une phrase. La beauté est la première marche de la guérison. Parce que la beauté vous apporte la sérénité. Et la sérénité, la force de supporter vos souffrances. Et c'est pour ça que tous les hôtels-Dieu sont beaux en France. Tous. Que ça soit dans une grande ville ou dans une petite ville. Et c'est très, ce qui n'est pas le cas des hôpitaux généraux. Ce n'était pas le même but. Suivi. Mais c'est là où c'est des choses où vous savez, le patrimoine, c'est une leçon d'humilité. On apprend en fait beaucoup de choses. Pourquoi ça tient? Pourquoi on a des normes? On s'aperçoit que ben, elles ne servent pas beaucoup. Je vous parle de toute la cathédrale qui est pendue dans le vide. Aujourd'hui, il faudrait 4 joints de dilatation, des compensateurs de je ne sais qui, je ne sais quoi. Mais et là, depuis 10 siècles, c'est au même endroit. Et ça a connu des tremblements de terre. Vous savez, un monument, c'est comme la plus délicieuse des vieilles dames séculaires. C'est-à-dire que ça se tasse un peu, mais ça tient. Et puis, en plus, si vous voulez, ça vous montre comment il faut agir. Comme on disait, c'est qu'il ne faut pas faire de chirurgie lourde. Vous ouvrez pas un corps et mettez tout en plastique à l'intérieur. Après, vous avez un rejet de prothèse. Il faut, en fait, faire des chirurgies très délicates. Et la plupart des fissures qui ne sont pas structurelles, eh bien, c'est simplement des rides. Donc, il faut caresser les rides de la vieille dame. C'est tout. Et après ça, donc, c'est toute une attitude. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut s'enseigner à tout le monde, je sais bien, aussi bien des artisans qu'autres. Et puis alors, il y avait, par exemple, comme vous l'avez dit, Mgr Brincard avait une confiance totale dans la Providence. Un jour, alors, par une autre anecdote, j'ai une de mes cousines qui me dit qu'elle est allée à une sortie VMF, c'est pas intéressant du tout au début, hein, une sortie VMF dans l'Ariège. Elle se retrouve à côté d'un ménage à table, monsieur et madame Fruman. Ce monsieur et madame Fruman lui disent qu'ils ont collectionné des broderies depuis le 15e siècle, extraordinaire, qui voulait la donner à Mirepoix, à la commune de Mirepoix, c'est pour ça qu'ils étaient dans l'Ariège, mais que la commune leur faisait des difficultés et qu'ils n'arrivaient pas. Et ils disent à ma cousine, on aimerait trouver un monument historique. Alors, évidemment, elle m'appelle et j'ai dit, est-ce que tu peux les rencontrer? Tu as quelques monuments historiques, est-ce que tu peux les rencontrer? J'ai dit, une collection, mais oui, il faudrait que je la voie. Donc, je pars à Paris, ils habitent Le Pec, une commune à côté de Paris. Et M. Fruman vient nous chercher en voiture à la station de métro avec ma cousine, on arrive dans un petit immeuble tout simple, une sorte d'ILM à peu près, un petit escalier, vous savez, en granito blanc, une porte en faux acajou, et puis on ouvre la porte, et je vois madame qui apparaît, mais je la vois à peine parce que c'était tout sombre chez eux. Et elle me fait rentrer très gentiment, et puis on va au bout du couloir, il y avait une grande pièce qui était rideau fermé, tout fermé, et je vois monsieur et madame qui commencent à mettre leurs gants blancs de soie, et à sortir, sous des papiers, sous des tas de choses, à sortir sur un chevalet. Tout était prévu dans le calme, dans le froid, une température parfaite. Les premiers, je me souviens, c'était des chapons de chape extraordinaires. Et je dois vous dire qu'au troisième, je dis, attendez, c'est exceptionnel, tout simplement. C'est admirable de vouloir la donner, parce que je ne connais pas de choses comme ça. Il s'intéressait à tout. Alors, madame racontait l'histoire et monsieur la technique. Donc Josiane, elle s'appelle Josiane Fruman, elle racontait l'histoire et comment il les avait poursuivis. Ça a démarré avec un achat d'un chapon qui n'a jamais été vendu, qui était délaissé à Drouot. Elles ont fini par l'acheter. Elles se sont aperçues que le dessin, c'était un dessin de Lebrun. Donc, tout simplement. Donc, je peinte le brun. Et ils ont étudié après les broderies, comment on fait les broderies, les brodures. Et il était, lui, un expert ahurissant en technique. Donc, il me dit, il faut trouver un monument historique. Et à ce moment-là, j'ai vu que je travaillais au Palais des Papes. Et en face du Palais des Papes, il y a l'hôtel des Monnaies. Et l'hôtel des Monnaies, par définition, c'est comme un coffre-fort. Donc, il n'y a pas de fenêtre. Donc, je me suis dit, ben, c'est bien pour garder des broderies. Et je parle de ça, et ils me disent, mais à qui ça appartient? Je dis, à la ville. Ils me disent, non, les maires changent, on veut pas. On veut que ça appartienne à l'État, pour que ça soit public, ça reste à l'État. Et là-dessus, je lui dis, ah ben écoutez, je vois une chose, et je dis, je vois une commune qui s'appelle Le Puy-en-Velay, et vous avez comme évêque le meilleur, le plus cultivé qui soit, et celui qui peut comprendre, apprécier ce genre de choses. Et je lui dis, ben c'est Monseigneur Brincard. Et madame me dit... « Ah tiens, mais on a reçu un faire-part il n'y a pas très longtemps. On doit aller au mariage du duc de Lévis-Mirepoix en Italie. Et il me semble que c'est ce nom. Elle va chercher le faire-part. C'était marqué Monseigneur Brincard qui va célébrer le mariage. » J'ai dit « Alors ça, c'est invraisemblable. Comme quoi, là encore, la Providence. » Donc, je lui dis « Ben écoutez, je l'appelle ce soir. » Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé ce soir et j'ai dit « Pareil que vous allez là. » Enfin, et il m'a dit « Oui, j'y vais, c'est vrai. Je vais célébrer le mariage. Et bien, vous allez rencontrer monsieur et madame Fruman. » Donc, ils se sont rencontrés. Après, il l'a invité ici. Je dirais, en une soirée, ils sont tombés amoureux du puits et de tout le village et autres. Et c'est comme ça que vous avez la collection de broderies qui est arrivée ici. Mais M. Fruman, alors je lui ai demandé, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Mais c'est très touchant, son épouse est décédée il y a quelques mois et il m'a laissé un adorable, je dirais, texte que je vous lis, tout simple, si vous permettez, Monseigneur. Donc et voilà le texte de Daniel Fruman. « Josiane et moi avons connu Henri Brincard par l'entremise de Didier Replin quand nous cherchions un lieu d'accueil pour notre collection d'ornements liturgiques et tableaux de dévotion brodés. Dès notre première rencontre à Trani, en Italie, Mgr Brincard s'est déclaré favorable au projet, s'est engagé totalement pour faire en sorte que la collection rejoigne le puits et qu'elle soit présentée dans la salle des États rénovée. Plus tard, il nous apporta son soutien quand nous avons fait face à l'inertie de l'administration à laquelle nous réclamions la rotation des œuvres exposées. En juillet 2013, et en dépit de sa maladie déjà avancée, il avait tenu à participer à une réunion à la préfecture avec un courage et une ténacité admirables. Au bout de ces années et de nos nombreuses rencontres, une complicité s'est établie entre nous et nous sommes trouvés beaucoup de points communs. Ils peuvent sembler anecdotiques, mais je ne peux pas m'empêcher de les partager avec vous. Celui qui deviendrait Monseigneur est né un 18 novembre, qui est aussi mon jour de naissance, de 1939, qui est l'année de naissance de ma femme Josiane. Par ailleurs, Josiane et moi étions un couple mixte, juif pour moi et catholique pour elle. Il nous confia très vite qu'un membre de sa famille, qu'il admirait beaucoup, était aussi membre d'un couple mixte. Quand il nous arrivait quelques événements heureux, il me regardait en souriant et me disait « Je sais, Daniel, pour vous, c'est la chance, et pour moi, c'est la providence. Que ce soit grâce à la chance ou à la providence, nous avons eu le bonheur de le connaître et de participer à son œuvre. Merci, Monseigneur Brincard. » Voilà, c'est une... Alors, c'est vrai que le dernier élément qui m'avait frappé dans toutes les discussions, c'est son sens de la beauté, comme je vous disais, mais pas forcément de la beauté matérielle. Vous savez, pour les grands musiciens, on dit « l'oreille absolue ». Monseigneur Brincard avait l'œil absolu. Et il était surtout, il rajoutait, s'il savait donner l'inspiration. Vous savez, on dit souvent, donc pour les monuments historiques, on me dit « vous nous faites visiter ces monuments ». Mais c'est dommage, on ne pourrait plus les refaire. Ah, pas du tout. Les jeunes sont aussi doués que les anciens. Les dons ne s'évanouissent jamais si on les entretient. Donc, on pourrait très bien refaire. Je veux dire, donnez-moi un petit budget, je vous fais une deuxième cathédrale. Mais ce n'est pas un petit budget. Mais là encore, au niveau des budgets, si vous voulez, la restauration des églises, tout le monde est affolé. On dit, oula, ça coûte 6 millions et 7 millions. Vous savez ce que représente 6 millions ? C'est 4 ronds-points de la DDE quand on en fait des centaines en France. Donc faites 4 fois le tour du rond-point et vous direz, la cathédrale est restaurée. Donc pour casser un peu le mythe du prix des monuments historiques, mais c'est ça, c'est pas plus que ça, en fait. Et il me semble qu'on en apprend plus en visitant la cathédrale qu'en faisant le tour de rond-point. Donc voilà, ça c'est le chose. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, je dirais, il avait l'amour aussi du travail bien fait. Et le sens du fait qu'il fallait donner le meilleur de soi-même. Et c'est vrai que tous les artisans qui ont travaillé à la cathédrale, je peux vous dire, ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais dans tous les métiers, que ce soit l'ébénisterie, l'orfèvrerie, les émaux, les pierres, les tailles de pierre, la maçonnerie, tout, c'est le meilleur de ce qu'ils pouvaient faire. Et ça, c'est très beau, comme j'aime bien en échanger cette belle phrase de Saint-Exupéry dans Citadelle, « La valeur des civilisations n'est point le fait de possession, mais de don. » Et la valeur, c'est dans le don. Et ça, ça vous donne tous les monuments historiques que l'on peut avoir. Et pour terminer, je dirais qu'en 2014, je suis allé le voir dans sa petite, je dirais, chambrette de la maison de repos d'Albigny. Il était là et j'étais très frappé par son abnégation de tout. Il avait une abnégation totale, mais je dirais, dans son beau regard clair, brillait toujours la confiance dans la Providence. Alors je dirais, merci, Monseigneur, qui est là, pour cette, je dirais, la plus belle, la plus rayonnante des leçons d'espérance. Merci.